Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Dans cet épisode des yeux au ciel, je voudrais aujourd'hui vous parler d'une étoile un peu particulière. En fait, on l'appelle étoile du berger, mais ce n'est pas une étoile, c'est une planète. Je vais vous parler aujourd'hui de Vénus. Alors pourquoi cette confusion entre étoile et planète ? Eh bien, l'histoire remonte à la période des Babyloniens, une civilisation ancienne qui avait des connaissances astronomiques assez avancées. Les Babyloniens observaient attentivement les cieux et enregistraient les mouvements des astres. Vénus en particulier les fascinait par sa luminosité et par ses apparitions régulières. Les Babyloniens ont observé que parfois une étoile brillante apparaissait le matin, juste avant l'aube. Et parfois une autre étoile brillante apparaissait le soir, juste après le coucher du soleil. Ils ont nommé ces étoiles respectivement Nindarana, c'est-à-dire l'étoile du matin, et Dilbat, c'est l'étoile du soir. Pendant longtemps, ils ont cru que Nindarana et Dilbat étaient deux étoiles distinctes en raison de leur apparition séparée dans le ciel. Cette croyance a perduré malgré les enregistrements détaillés des mouvements célestes qu'ils possédaient. Ce n'est que plus tard que les astronomes babyloniens, après des siècles d'observation, ont réalisé que Nindaramat et Dilbat étaient en fait une même étoile, Vénus. Ils ont compris que Vénus apparaissait à des moments différents en raison de son orbite autour du Soleil. Des siècles après les Babyloniens, les Grecs ont également observé Vénus et ont été confrontés à la même confusion. Le célèbre philosophe et mathématicien Pythagore, vivant au VIe siècle avant Jésus-Christ, est souvent crédité d'avoir compris que l'étoile du matin et l'étoile du soir étaient identiques. Pythagore a voyagé en Égypte et à Babylone, où il a probablement été exposé aux connaissances astronomiques avancées de ces civilisations. De retour en Grèce, il a enseigné que Phosphoros, l'étoile du matin, et Hespéros, l'étoile du soir, étaient en réalité une seule et même entité céleste. Cette compréhension a été une étape importante dans l'astronomie grecque, en jetant les bases d'une vision plus unifiée et rationnelle du cosmos. Vénus est donc une planète du système solaire. Le nom « planète » veut dire « astre errant » en grec. Et les cinq planètes du système solaire visibles à l'œil nu ont été identifiées depuis l'Antiquité. Aristote les pensait circuler sur des trajectoires elliptiques autour de la Terre, que l'on appelle les orbes. Les cinq premières planètes du système solaire sont identifiées à des divinités, dont elles ont gardé le nom latin. Mercure, c'est l'équivalent latin de Hermès, c'est le dieu des voyageurs, du commerce. Puis Vénus, ou Aphrodite en grec, la déesse de l'amour, Mars, le dieu de la guerre, Jupiter, le dieu des dieux, et Saturne, le dieu des mers. Elles sont les éléments plus ou moins mobiles du ciel, d'où leur nom de astres errants, et sont certainement les premiers objets dont les positions ont été notées, suivies et observées, leur mouvement les rendant particulièrement intéressantes. Vénus, c'est la deuxième étoile du système solaire. Elle tourne autour du Soleil en 224 jours, et elle tourne sur elle-même en 243 jours. Alors vous allez me dire, c'est peut-être un petit peu étrange une planète dont le jour dure plus longtemps qu'une année. Alors en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'il faut d'abord définir ce qu'est le jour. En fait, il y a deux sortes de jours. D'abord le jour sidéral, qui est le temps mis par un astre pour effectuer une rotation de 360 degrés, et donc revenir en face des mêmes étoiles lointaines. Puis le jour solaire, ou stellaire, pour les objets hors du système solaire, qui est l'intervalle moyen entre deux passages consécutifs du Soleil au méridien. Dans le cas de Vénus, qui tourne sur elle-même très lentement, et qui en plus a un sens de rotation anti-horaire, de même que son sens de révolution, elle revient devant le Soleil avant de revenir en face des mêmes étoiles lointaines. Le jour solaire est donc de 116 jours, alors que le jour sidéral est de 243 jours. Vénus possède l'orbite la plus circulaire des planètes du système solaire. Et du fait de sa très lente rotation, elle est quasiment sphérique. Elle ne possède aucun satellite naturel. C'est une planète tellurique, comme la Terre, ça veut dire qu'elle est constituée de roches. On l'appelle parfois la planète sœur de la Terre, en raison des similitudes relatives de leur diamètre, de leur masse, de leur proximité au Soleil et de leur composition. Mais elle diffère de la Terre en deux points principaux. D'abord, son champ magnétique, qui est bien plus faible que celui de la Terre. Et ensuite, son atmosphère très dense, constituée presque exclusivement de dioxyde de carbone. La pression atmosphérique à la surface de Vénus est 92 fois supérieure à celle de la Terre, soit une pression ressentie sur Terre à 900 mètres sous l'eau. Elle est de loin la planète la plus chaude du système solaire, même si Mercure est la plus proche du Soleil, car la température moyenne de sa surface est de 462 degrés. Ça, c'est à cause de son atmosphère très dense et très riche en CO2, qui produit l'effet de serre le plus important du système solaire. La planète est enveloppée d'une couche opaque de nuages d'acide sulfurique, hautement réfléchissant pour la lumière visible et empêchant sa surface d'être vue depuis l'espace. Mais c'est ce qui la rend extrêmement brillante. Et en fait le deuxième objet naturel le plus brillant du ciel, après la Lune. Bien qu'on puisse supposer la présence d'océans d'eau liquide à sa surface par le passé, Vénus présente un paysage désertique et rocheux, bien pieux. Elle est donc bien peu hospitalière. Elle est une planète tellurique, je vous l'ai dit, ça veut dire qu'elle est formée de roches et de métaux. Et comme la Terre, on peut la décomposer en trois couches. La croûte, le manteau et le noyau. La croûte de Vénus, composée principalement de silice, des roches proches du granit, est à peu près aussi épaisse que la croûte continentale de la Terre, c'est-à-dire une épaisseur entre 20 et 50 km. La seconde couche, le manteau, a une composition proche de celui de la Terre, essentiellement des silicates et des oxydes de métaux. Comme celui de la Terre, le noyau vénusien, le plus au centre, est au moins partiellement liquide, car les deux planètes sont refroidies à peu près en même temps. La sonde Venera 4, en 1967, a découvert que le champ magnétique de Vénus est beaucoup plus faible que celui de la Terre. Sur Terre, le champ magnétique est observé depuis 1600. On pensait alors que le champ magnétique de la Terre était constant. Mais avant le XXe siècle, des explications ont été avancées. Actuellement, c'est l'effet dynamo qui fait consensus. Walter Elsasser est considéré comme le père de la présente théorie sur l'effet dynamo terrestre. Il soutient que le magnétisme est engendré par les courants électriques induits dans le noyau liquide externe de la Terre. Il est l'un des premiers à effectuer l'étude de l'orientation magnétique des minéraux dans les roches, montrant ainsi que ce champ magnétique terrestre varie en fonction du temps. Il y a 780 000 ans, par exemple, le pôle nord magnétique se trouvait au pôle sud géographique. Sur Terre, le noyau, le centre de la planète, est constitué d'une sphère solide qui baigne dans du fer liquide. Les flux de chaleur partent du centre de la Terre et mettent ce liquide en mouvement. Le fer se déplace alors en formant des tourbillons qui suivent l'axe des pôles. Ces tourbillons provoquent un courant électrique très fort. Ce courant électrique génère à son tour un champ magnétique. C'est pour cela que les boussoles indiquent le nord. Enfin, presque, car l'axe magnétique est incliné d'environ 11 degrés par rapport à l'axe des pôles géographiques. D'ailleurs, d'après la loi de l'attraction magnétique, le pôle nord d'un aimant attire le pôle sud d'un autre aimant. Alors en ce moment, c'est le pôle magnétique sud de la Terre qui est au nord géographique. Ce champ magnétique protège la Terre des vents solaires, ces particules très énergétiques qui sont générées par le Soleil. Et c'est quand ces vents solaires rencontrent notre magnétosphère, notre champ magnétique, que se produisent les aurores boréales. Sur Vénus, là où le champ magnétique est plus faible, ces vents solaires ont probablement arraché l'atmosphère de la planète, ou en tout cas ses atomes les plus légers, l'hydrogène, l'hélium et l'oxygène, en laissant sur place une atmosphère plus dense composée d'atomes beaucoup plus lourds. Ce phénomène est appelé érosion atmosphérique. L'érosion atmosphérique provoquée par le vent solaire a probablement entraîné la perte de la plupart de l'eau de Vénus au cours du premier milliard d'années de sa formation. De par sa position dans le système solaire, la Terre ne sera jamais entre Vénus et le Soleil. On ne pourra donc jamais observer Vénus en pleine nuit. Elle sera toujours visible, soit au matin avant le coucher du Soleil, soit au crépuscule. Vénus a une élongation maximale de 47 degrés, c'est-à-dire qu'au moment où elle est la plus éloignée du Soleil, on peut l'observer à 47 degrés de celui-ci, ce qui représente quand même un quart de la taille totale du ciel. Le crépuscule astronomique, c'est-à-dire le moment où le Soleil est suffisamment en dessous de l'horizon pour qu'il y ait un ciel un peu sombre, est à peu près de 18 degrés. Ça veut dire que Vénus peut atteindre un angle de 47 moins 18 égale 29 degrés. On peut la voir à 29 degrés au-dessus de l'horizon dans un ciel très noir pour son élongation maximum. Ça représente à peu près un tiers de la hauteur totale du ciel. Vénus peut donc monter assez haut dans le ciel et rester visible plusieurs heures après le coucher du Soleil. Quand elle est à son élongation maximale, elle présente une face quart et un disque plus grand. C'est une Vénus gibbeuse. Elle est observable à ce moment-là au télescope et aux jumelles. C'est d'ailleurs un spectacle assez surprenant qui nous rappelle l'observation de la Lune, puisqu'en fait, Vénus étant une planète inférieure, elle présente des phases. L'observation de ces phases a été faite pour la première fois au début du XVIIe siècle par Galilée à l'aide de sa lunette astronomique. Elle a été un argument utilisé par ce dernier pour se rallier à la théorie héliocentrique de Copernic. Enfin, Vénus affiche sa plus grande taille et sa nouvelle phase lorsqu'elle se situe entre la Terre et le Soleil. Vénus peut aussi passer entre la Terre et le Soleil, en étant alignée avec l'orbite de la Terre. Alors c'est un événement assez rare qui se produit deux fois tous les 120 ans. On parle de transit et on peut alors observer l'ombre de Vénus devant le disque solaire. Évidemment, ces transits ne s'observent jamais à l'œil nu. Car observer à l'œil nu le Soleil, ou observer le Soleil dans des jumelles ou au télescope, peut gravement abîmer les yeux. Il faut donc observer avec des filtres, adaptés à l'observation solaire. Les événements de transit, c'est exactement la même chose qu'une éclipse solaire. Mais les dimensions de la planète et son éloignement de la Terre font qu'on observe un tout petit point qui se déplace sur le disque solaire. Le premier à avoir envisagé de regarder l'ombre de Vénus devant le Soleil, c'est Johannes Kepler. Il prédit ainsi un transit de Mercure, puis un transit de Vénus en 1631. Mais ses calculs manquaient encore un petit peu de précision et ce dernier transit n'a pas pu être observé. En fait, il s'avéra qu'il s'est passé pendant qu'il faisait nuit en Europe, donc invisible chez nous puisque le Soleil était caché. Fin octobre 1639, le Britannique Jeremiah Horrocks calcule que Vénus devait repasser devant le Soleil le 24 novembre. Bon, ces calculs aboutirent un petit peu tard pour en informer la communauté scientifique européenne. Il put seulement avertir son frère Jonas et son ami William Crabtree. Mais regarder le Soleil directement avec un télescope était à l'époque impossible, car l'éblouissement aurait amené un décollement de la rétine. Aussi, faute de filtres, qui n'existaient pas encore, il avait imaginé d'observer l'astre à partir d'une pièce plongée dans le noir. L'image du Soleil à travers le télescope se projetterait 2 mètres en arrière sur une feuille de papier blanc finement quadrillée. Il put ainsi observer pendant 35 minutes la petite tache noire de Vénus se déplaçant sur le grand cercle du Soleil.